Il est 19h01 et vous avez bien raison d'écouter Campus. Tout de suite, vous embarquez à bord du sous-marin.
Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Il fait la grande voile!
Politique, société.
Il n'y a pas de voile, abruti!
Culture.
Tu meurs si on donne 10 secondes!
Et même du sport.
Tout le monde est à son poste.
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous, vous êtes bien dans le sous-marin et nous sommes ensemble pendant une heure pour faire fonctionner nos sonars et nos ménages. Au programme de cette première de la saison, l'équipe subaquatique va s'intéresser au documentaire. Marc Borgomano, vice-président de l'association Cinéma Parlant, viendra nous parler du mois du film documentaire qui commence demain, à condition qu'il trouve le chemin du studio. Avec Hubert Humeau, nous parlerons du documentaire Donner-Recevoir et nous voyagerons même jusqu'en Équateur où son association Les Amis de Pierre pour Saraguro agit activement. Antoine, lui, de son côté, ouvrira la saison des chroniqueurs avec son cabinet des curiosités. Et comme chaque jour, nous commençons par un reportage.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
La semaine dernière, la nouvelle préfète Béatrice Abolivier posait ses valises dans notre ville. Comme tous les autres médias angevins, nous avons été conviés à sa prise de fonction. Alors forcément, on a envoyé Thibaut, notre Tintin à nous, sur le terrain, histoire de mieux cerner le personnage.
Dans le cadre de la prise de fonction de la nouvelle préfète du Maine-et-Loire, Campus a été convié sous les ors de la République pour une rencontre avec la presse. L'occasion pour Béatrice Abolivier, qui opérait avant à la même fonction en Charente-Maritime, de revenir sur son parcours mais surtout de détailler certains points de sa politique à venir, notamment face à la question des migrants et des réfugiés.
Alors, il faut faire très attention au vocabulaire qu'on emploie, parce que pour regarder les situations des uns et des autres, on regarde leurs qualifications administratives. Il y a des migrants qui ont des droits au séjour ou qui n'en ont pas. Il y a des réfugiés qui ont des droits liés à la reconnaissance en matière d'asile, qui, quand ils sont déboutés, n'en ont pas. Et c'est ce qui doit nous guider dans l'examen des situations des uns et des autres. On applique la loi pour les différentes catégories. Il y a des règles, il y a des consignes, et nous appliquerons ces consignes. À Rome, moi j'ai vu des camps avec des jeunes filles de 15 ans sur le point d'accoucher. Il est bien évident que c'est indigne de laisser une jeune fille de 15 ans, au point d'accoucher, quand elle a accouché, de son bébé dehors. Donc moi je trouverais peut-être à ce moment-là une solution pour une individu. Et ça ne m'empêchera pas d'avoir une position différente pour le squat des Roms, qui est un squat, avant d'accueillir des Roms ou d'autres personnes. En gros, je regarderai la situation d'hébergement. Quoi, c'est pas tolérable. Pour le reste, les demandeurs d'asile ont droit à un hébergement dans des CADA. Il y a actuellement une volonté de créer plus de places de CADA, avec des appels à projets sur le territoire qui ont été lancés. Mais quand quelqu'un est débouté, soit il obtient l'asile, et dans ce cas-là, tous les droits afférents pour lui permettre notamment de se loger. Soit il n'obtient pas l'asile, et dans ce cas-là, il devient personne qui est dénuée de droit et qui a vocation à quitter le pays. Donc on va faire le travail et un accompagnement. Donc moi je vais prendre la mesure ici de qu'est-ce qui existe comme place, qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà.
Faisant suite à la déclaration de Manuel Valls quant au fait de donner au préfet le pouvoir de légiférer en cas de non-respect par les élus des quotas de logements sociaux dans leur commune, Béatrice Abolivier affirme sa volonté d'user de cette prérogative.
Je pense qu'aujourd'hui il ne faut plus construire des logements sociaux comme on a pu construire à un moment avec une concentration dans les mêmes communes, dans les mêmes quartiers. Alors il peut y avoir différents moyens d'atteindre cette quantité de logements sociaux. Mais je serai plus sévère pour appliquer la carence quand on voit que la commune ne fait manifestement aucun effort. Parce que quelquefois, des communes, et j'en parle parce que je viens d'un département, c'était surtout les communes littorales, en fait, qui avaient des problèmes, nous leur avons imposé sur l'urbanisme à venir des plans de prévention des risques qui rendent inconstructibles, qui réduisent encore le terrain et qui, de ce fait, renchérissent encore plus le foncier. Et donc, pour certains maires qui ont la volonté dans ce contexte, ils ont beaucoup de mal à atteindre leur quota de logements sociaux. Ça nous avait amené d'ailleurs à faire influer la loi pour diminuer le solution imposée. Donc ceux qui font un effort mais qui n'y arrivent pas avec cet effort, j'ai envie de le dire, bon, on peut comprendre qu'ils ont des difficultés parce que très clairement, parfois, c'est vraiment difficile. Hein. Cela dit, entre celui qui va se battre pour avoir ne serait-ce que 5 logements sociaux parce qu'il va trouver le terrain, l'assise et les... Et celui qui ne fera rien, mais vraiment aucun effort, là je ferai la part des choses, si vous voulez.
Si Madame la Préfète affiche donc des intentions fermes dans ces deux dossiers, il ne reste plus maintenant qu'à juger ce qu'il en sera réellement une fois à l'épreuve de l'exercice du pouvoir.
Hubert Humeau, bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que quelque chose vous fait réagir dans ce reportage, l'arrivée de la nouvelle préfète? Ça peut être sur la question des migrants, ça peut être sur la question des logements sociaux. Quelque chose vous touche?
Je pense que les migrants, c'est une question fondamentale aujourd'hui. On est tous confrontés à cette question-là, d'une façon ou d'une autre. Et je crois qu'on a tous des questions à se poser et à s'interroger en notre conscience de ce que ça peut avoir comme effet, direct ou indirect, sur notre façon de voir et surtout sur notre façon d'agir.
Thibault, bonsoir.
Bonsoir.
Tu as réalisé ce reportage. Comment tu l'as trouvé, la nouvelle préfète? Qu'est-ce que tu en retiens, toi, mis à part tout ce que tu nous as dit dans ce reportage?
Au premier abord, elle était très sympathique. Elle fait très sévère mais juste. Après, là, la rencontre, c'est une opération de com', somme toute, très bien rodée. On voit que c'est pas sa première valse. Après, comme je l'ai signalé, il faut voir ce qui sera mis en place après. Hein. C'est très joli de dire que quelque chose comme un squat de Rome, c'est intolérable. Après, il reste à voir ce qui va être mis en place pour pallier à ça si on les envoie ailleurs.
Et la transition est toute trouvée puisqu'on va faire notre première pause musicale en s'écoutant Concrete or Abstract. Vous comprendrez la transition avec la chanson Vive la France. Respirez.
Allongez-vous bien, étendez-vous. Respirez un petit peu. Allongez-vous bien, étendez-vous. Respirez un petit peu. Allongez-vous bien, étendez-vous. Respirez un petit peu. Allongez-vous bien, étendez-vous, étirez-vous. Décontractez-vous. Respirez un petit peu. Respirez un petit peu. Respirez un petit peu. Allongez-vous bien, étendez-vous, étirez-vous. Décontractez-vous. Allongez-vous sur le dos. Allongez-vous bien et commencez à travailler.
Nous disons que l'État est partie prenante de l'antagonisme de classe. Nous disons que l'État représente une classe. Le pouvoir possède la radio et la télévision et un parlement à sa main.
Respirez un petit peu.
Si le gouvernement n'est pas capable de prendre ses responsabilités,
la température va encore monter.
Dans la rue, nous disons, nous allons nous expliquer directement dans la rue, directement dans la rue.
La température va encore monter.
Dans la rue.
La température va encore monter.
Vive la France. République.
Vous êtes toujours sur le 103 de la bande FM, le 103 de Campus. Marc Borgomano, malheureusement, n'a pas pu être avec nous en raison d'une maladie. Mais on a trouvé un remplaçant. Rassurez-vous, Louis Mathieu, le président de l'association Cinéma Parlant, vient d'entrer dans le studio. Bonsoir, Louis Mathieu.
Bonsoir.
Alors, votre association, Le Cinéma Parlant, est en quelque sorte le relais du mois du film documentaire dans le Maine-et-Loire. On peut dire ça comme ça ?
Absolument, avec quand même le Bibliopôle, c'est-à-dire l'ex-bibliothèque départementale de Prêt, c'est-à-dire que nous co-coordonnons l'ensemble des manifestations qui s'inscrivent dans le mois du documentaire au mois de novembre. Et donc, le Bibliopôle s'occupe plutôt des bibliothèques du département, alors que nous, nous nous occupons des bibliothèques de grandes villes et aussi cinéma, centres socio-culturels.
Alors, il faut rappeler que le mois du film documentaire est une initiative nationale, c'est bien ça ?
Absolument, c'est une initiative nationale lancée par Images en bibliothèque.
Alors, un projet national qui, au total, selon mes informations, rassemble 1200 réalisateurs qui sont représentés pour un total de 3300 projections. C'est énorme.
Absolument. Et en Maine-et-Loire, nous avons la fierté, dans cette petite plaquette que j'ai dans la main, de compter 31 manifestations, ce qui est quand même beaucoup.
Thibaut ? Plus particulièrement dans le département, est-ce qu'on s'appuie sur un réseau de structures particuliers ?
Alors effectivement, donc pour le Bibliopôle, c'est les bibliothèques de petits villages, et ça représente vraiment une animation formidable, quoi, parce que dans une salle polyvalente où on installe de quoi faire une projection, eh bien on voit que tout le village se rassemble pour voir un documentaire et pour discuter d'un sujet, voilà, qui les passionne. Et puis, quelquefois, il y a le réalisateur, et donc ça permet aussi de parler du film, de la réalisation du film.
Alors, est-ce que les sujets et les thématiques qui sont abordés, justement, le sont spécifiquement au territoire ?
Alors, effectivement, c'est-à-dire que le choix des films peut être fait en concertation avec les usagers des bibliothèques, avec ceux qui fréquentent les centres socio-culturels. Et puis, nous menons une opération de prévisionnement des films qui ont été réalisés dans la région pour essayer d'inciter à la diffusion de ces films. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de documentaires qui se font dans la région et ce serait dommage qu'ils restent sur des étagères.
Et alors, est-ce qu'il y a une thématique particulière ou comment en fait sont sélectionnés et choisis les documentaires qui vont être diffusés ?
Alors non, il n'y a pas de thématique particulière parce que chaque point de diffusion a totalement sa liberté de programmation. Cependant, on remarque quand même que la question, je dirais, de comprendre l'autre. C'est-à-dire que l'autre, c'est toujours celui qui est responsable de tous les malheurs, c'est toujours celui à qui on en veut. Essayer de le comprendre, d'avoir son point de vue, c'est un petit peu ça qui réunit quand même tous les films qui sont projetés cette année. Par exemple, bon, demain soir, au centre Jean Villard, à Angers, en plein quartier de la Roseraie, donc, il y a le film La Cour de Babel de Julie Bertuccelli. Ce sont les primo-arrivants, ces enfants de migrants, sur lesquels on sait bien que quelquefois, il y a des choses qui se disent, où on ne comprend pas ce qui se passe, et là vraiment on voit des élèves qui ont vraiment une très forte envie, une très forte motivation pour apprendre le français et pour s'intégrer dans la société.
Donc quelque part en fait il y a quand même un accent mis sur, on va dire, la question globale du vivre ensemble.
Absolument.
Thibaut ?
Alors oui, en faisant quelques recherches on a pu se rendre compte que la majorité des événements étaient gratuits. Est-ce que c'est important pour vous de rester accessible au plus grand nombre ?
Alors oui, c'est vrai qu'autant que possible, on essaie de faire que ce soit accessible et que l'argent ne soit pas un frein pour venir à ces séances. Parce que c'est des vrais moments de convivialité, quoi. C'est-à-dire que c'est des moments de parole. Je trouve que les moments de parole sont assez rares dans notre société, hein. Et là, des gens qui peuvent s'exprimer. Et donc, c'est quand même une invitation, effectivement, à confronter son point de vue avec celui des autres, à celui du réalisateur, à parler ensemble.
Louis Mathieu, on rappelle que vous êtes président de l'association Cinéma Parlant. On va rentrer dans un point un peu plus technique. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs les différences fondamentales entre le reportage et le film documentaire ?
Alors, le reportage, on se laisse conduire par la matière qui se déroule devant nos yeux. hein, quand on est cinéaste, et donc après il y a un travail de montage, alors que le documentaire, il y a une écriture préalable, c'est-à-dire qu'on construit un film et on va essayer de, à partir de la réalité qu'on a observée, de définir un point de vue et puis de le communiquer au spectateur. Donc c'est pas dans l'urgence, c'est pas forcément un sujet d'actualité, c'est, il y a ce recul de l'écriture et il y a quelque chose qui se transmet au spectateur.
Alors, dans votre édito, dans le communiqué de presse qu'on a reçu, vous citez Jean-Luc Godard qui disait « Tous les grands documentaires tendent à la fiction ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette phrase ?
Alors, c'est vrai qu'un documentaire, quelquefois, ça touche à la fiction. Parce que, forcément, un documentaire raconte une histoire. Et raconte une histoire avec un suspense. Avec des personnages dont on se demande s'ils vont pouvoir s'en sortir. Par exemple, dans le film de demain soir, La Cour de Babel, je pense à ces élèves qui ont des difficultés. Et on se demande s'ils vont surmonter ces difficultés. Donc, il y a quelque chose qui se rapproche de la fiction, là. Et il y a un suspense. On est passionné, on est emporté dans une histoire qui n'est pas la nôtre, comme avec la fiction, et c'est une sorte d'évasion qui nous est procurée. Il y a d'autres films que je pourrais évoquer, hein. Il y a aussi par exemple un film L'Enfer des Anges sur le Hellfest, le mouvement des métalleux là, de Clisson, hein, du festival. De sentir que ces métalleux, ils sont d'une tendresse incroyable, quoi. C'est-à-dire que derrière une apparence un petit peu dure, en fait, c'est des gens... voilà, on est dans un autre monde que le sien pour la durée du film. Ça, c'est comme la fiction.
Alors, Antoine, qui est avec nous, bonsoir Antoine.
Bonsoir.
Tu avais une question également, tu avais envie d'intervenir.
Oui, tout à fait. Est-ce que pour vous, le reportage, c'est aussi une manière de dédramatiser certaines choses ?
Alors, c'est vrai que dans le reportage, malheureusement, il y a... le reportage, il est diffusé dans les actualités télévisées, et on a un reportage sur les méfaits de la viande rouge, et puis après, un reportage sur les migrants. Donc, tout ça se neutralise un petit peu. C'est ça le problème du reportage, c'est que dans quelles conditions il est diffusé. Alors que le documentaire, c'est déjà un format beaucoup plus long. Le reportage, ça peut être un 2-3 minutes, quoi. Alors qu'un documentaire, la durée habituelle, c'est 52 minutes, puisque c'est le rythme de la télévision avec une heure et une pause publicitaire toutes les heures, à peu près. Donc, il y a le temps d'installer une situation, il y a le temps de dramatiser les choses. Alors que dans le reportage, c'est vrai que quelquefois, il y a cela, et puis il faut dire qu'il y a une tendance de la télévision qui est toujours de rechercher l'émotion du spectateur. Et c'est tellement fort, c'est tellement envahissant, que ça finit effectivement par... on sent le système qui opère.
Alors, le documentaire a tout de même valeur d'information. Cependant, dans un documentaire, on part forcément du point de vue de son réalisateur. De quelle manière, finalement, en tant que spectateur, on peut interpréter ce documentaire ? Est-ce que, justement, on laisse libre cours à notre imagination ? Est-ce que, finalement, on peut le remettre en question ? Allez-y.
Alors, effectivement, le réalisateur du documentaire, il a un point de vue. Et ce qui est très bien, c'est quand il ne le cache pas, qu'il ne fait pas passer son point de vue pour le jugement objectif d'un dieu qui regarderait sur Terre ce qui se passe. Quand il affirme sa subjectivité. Et cela, il y a plein de façons de le faire. Éviter, par exemple, la voix off, qui a été la grande tradition des documentaires jusque dans les années 60-70. Parce que la voix off, ça paraît être effectivement la voix de Dieu, quoi, sur la réalité qui est là, donc incontestable. Et ça, cette voix off, elle est dangereuse. Et donc, il y a de plus en plus de documentaristes qui se refusent à cette voix off. Mais qui, par exemple, emploient une voix « je », par exemple, se montrent en train d'écrire quelque chose ou disent carrément que le choix des images est de leur responsabilité. Et ça permet effectivement d'affirmer leur subjectivité, de dire au spectateur « Attention, c'est moi qui parle. » Et c'est pas sûr que ce soit la vérité. Donc voilà, à toi, spectateur, de faire ton travail et de prendre du recul par rapport à ce que je suis en train de dire.
Alors, le mois du film documentaire au niveau national a aussi un côté, on va dire, très moderne, très jeune. On a vu que c'était axé également sur le web documentaire. Est-ce que la place du web documentaire dans le genre documentaire prend de plus en plus de place ? Quelle est sa situation aujourd'hui ?
Alors, c'est vrai que le web documentaire, c'est quelque chose de très intéressant. Et ça peut être une évolution vraiment... qui va donner, je pense, une diffusion supplémentaire au documentaire, en sachant que le documentaire, bon, il est souvent diffusé à la télévision, mais il y a des documentaires en salle qui sortent. Hein. Bon, il y a eu le succès énorme de Être et Avoir de Nicolas Philibert, qui a fait énormément d'entrées sur une école primaire du centre de la France. Et le web documentaire qui arrive là. Et le web documentaire, c'est à la fois un film qui est chapitré, c'est-à-dire qu'on a des chapitres et on peut aller directement au chapitre qui vous intéresse. Bon. Donc il y a une malléabilité, il y a quelque chose de plus interactif. D'autre part, il peut y avoir d'autres contenus dans ce format-là que les contenus de séquences filmées. Il peut y avoir du texte, il peut y avoir des sons, il peut y avoir de la musique, il peut y avoir des photos, il peut y avoir tous les contenus qu'on peut imaginer, des liens vers d'autres sites, etc. Donc dans le web documentaire, il y a cette interactivité qui me paraît extrêmement intéressante et qui peut représenter, dans certains cas, je dirais, un vrai parcours vers des objets culturels qui auparavant étaient difficiles d'accès. C'est-à-dire que, par exemple, hein, on pense bien à des publics jeunes qui n'ont pas l'habitude de voir des films comme cela, qui se disent « mais moi, ce sujet-là, ça ne m'intéresse pas particulièrement ». Mais si c'est présenté sous la forme d'un web documentaire, s'il y a une médiation, un accompagnement, voilà, ça peut attirer quelqu'un.
Et pour vous, Louis Mathieu, le web documentaire, c'est l'avenir du documentaire ou ce sont deux composantes complètement distinctes qui sont très difficiles à fusionner?
Alors non, je ne dirais pas que c'est l'avenir du documentaire. Je dirais qu'il y aura, j'espère, qu'il y aura toujours des documentaires qu'on pourra aller voir en salle de cinéma avec cette émotion collective qui accompagne toujours la projection d'un film quand on est un groupe de spectateurs à le voir. Donc ça, j'espère, parce que c'est vrai que le web documentaire, c'est plutôt une consultation individuelle. Donc c'est autre chose. Mais voilà, je pense que rien, tout est bon.
Thibaut ?
Alors, vous parliez de Être et Avoir qui a été sorti en salle et qui avait eu une certaine notoriété, mais c'est vrai que plus généralement, le documentaire au cinéma reste relativement minoritaire. Est-ce que de ce que vous voyez, on a une situation qui a tendance à évoluer quand même, ou est-ce que le documentaire reste assez marginalisé sur les sorties en salle ?
Alors, c'est complexe, et c'est vrai que ça, c'est aussi une idée, c'est que les réalités, elles sont toujours plus complexes que l'impression qu'on en a. Et ça, c'est vrai aussi pour la situation du documentaire, parce que il y a eu quand même de très très belles réussites en documentaire. Hein. Donc, on parlait de Être et Avoir, on pense au documentaire produit par Jacques Perrin, hein, les documentaires animaliers. On pense à des documentaires aussi qui ont vraiment rencontré un public. La tendance, elle est difficile à discerner par rapport à tout cela, parce que il y a une diffusion des documentaires à la télévision. Bon, on voit bien qu'ils sont diffusés plutôt à des heures tardives, sur des chaînes spécialisées. Bon, c'est pas simple, mais il y a quand même, moi j'ai le sentiment, un élargissement de la diffusion du documentaire. Avec une opération comme celle-là, en tout cas, c'est évident que des documentaires sont diffusés qui n'auraient jamais trouvé leur public.
Et pour conclure un peu cette interview, où est-ce qu'on peut retrouver alors le programme de ce mois du film documentaire dans le département ? Comment on fait si on veut aller voir tel ou tel documentaire ?
Alors donc sur le site de cinémaparlant.com, donc voilà, on a le programme. Sinon, il y a un programme papier qui est diffusé, qui doit être sur les présentoirs, par exemple au cinéma Les 400 Coups, dans les bibliothèques municipales, etc. Et qui fait quand même 34 pages. Bon, donc il y a une page par une manifestation. Ça permet de bien sentir de quoi il s'agit.
Oui, et effectivement, on rappelle qu'au total, ce sont 27 films qui seront diffusés dans le département sur 18 lieux différents. Donc il y a vraiment beaucoup de choix. Allez voir sur le site internet. Je voulais avoir votre point de vue, Hubert Humeau. C'est quelque chose auquel vous êtes sensible, vous, le documentaire. Vous allez aller en voir quelques-uns, je suppose ?
Moi, je trouve que le documentaire a toute sa place dans des idées d'actualité. Notamment en ce moment, avec le COP21, on parle par exemple beaucoup de l'écologie. Il y a des excellents documentaires qui sont parus ces derniers mois et qui parlent de ces questions et qui sont, à mon avis, tout à fait intéressants et qu'on ne verrait pas sans doute dans d'autres façons de visualiser.
On revient juste après Sly Johnson avec la chanson Les Fleurs du Mal pour continuer à parler de documentaires et on ira même un tout petit peu plus loin puisqu'on va voyager jusqu'en Équateur.
green macadam, un champ de mines désarmées. Au coin de l'œil coule la lave sur l'écorce de nos âmes asséchées. On claque des paupières pour dessiller notre mépris. Et sous nos pas brusques tombent les pétales sans un bruit.
Les fleurs du mal.
Vous êtes toujours dans le sous-marin et vous êtes toujours branché sur campus. Autour de la table, ce soir, Louis Mathieu, président de l'association Cinéma Parlant, et Hubert Humeau, président de l'association Les Amis de Pierre pour Saraguro. Votre association, Hubert Humeau, présentera vendredi 6 à 20h15, ce sera au 3 mâts à la Roseraie, un documentaire intitulé « Donner, recevoir ». Donc c'est au profit du projet d'aide humanitaire en Équateur. Pourquoi avoir choisi ce film qui est sorti en 2013 pour présenter le projet de votre association ?
Voilà, Donner, recevoir, en fait, c'est un film sur le thème du don d'organes. Et si nous avons choisi ce documentaire, c'est parce que le projet d'aide humanitaire que nous soutenons en Équateur, en fait, est né à la suite d'un accident mortel de notre propre fils. Et à la suite de cet accident, nous avons été amenés, effectivement, à se poser la question du don d'organes pour lui. Et nous avons accepté parce que Pierre, donc, c'était son prénom, il était très généreux de nature. Et donc, on a pensé que c'était évidemment tout à fait choisi d'accepter les dons d'organes. Et aujourd'hui, ben, on est fiers, si j'ose dire, de savoir que plusieurs personnes en Équateur vivent grâce à son foie, grâce à ses reins, grâce à ses yeux.
Alors, on comprend bien votre fierté. On la partage, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça change que ce soit un docteur, en l'occurrence le docteur Bale, qui est à l'initiative du film ?
Alors, je pense que ce film a été réalisé donc, par... entre autres par la DOT, donc l'Association des dons d'organes et des greffes et des tissus humains. Ce film a été fait de façon tout à fait professionnelle. L'objectif, c'était de sensibiliser, le plus grand nombre de personnes en faveur de cette prise de conscience, c'est-à-dire faire connaître son choix en portant une carte de donneur et surtout en informer ses proches. Et donc, qu'est-ce que ça change d'avoir un médecin néphrologue spécialisé des greffes au CHU de Grenoble, en l'occurrence le docteur Bell? Il est également chargé de cours d'éthique médicale à la faculté de médecine de Grenoble. Et évidemment, ça donne force de poids, de sérieux à ce film qui est remarquable, parce que c'est un film qui propose des histoires de vie de quatre familles qui ont été confrontées à cette question du don d'organes ou de la greffe. Et c'est le cheminement en fait de la pensée qui mène à la décision qui est au centre de chaque récit et non pas la dimension médicale. Les personnes en fait dans ce film nous dévoilent les souffrances, les moments, les bonheurs qui ont entouré ces moments exceptionnels. Et j'invite vraiment les auditeurs, éventuellement demain soir, à se déplacer s'ils en ont la possibilité, parce que c'est un film vraiment passionnant qui montre bien les émotions, tout ce qu'on peut ressentir autour de cette question qui concerne finalement tout un chacun, quel que soit son âge.
Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, on est suffisamment informé sur le don d'organes?
Absolument pas.
Non, il y a encore beaucoup de chemin à faire.
Il y a encore beaucoup à faire. Je pense qu'il faut savoir quand même qu'en France, actuellement, il y a 20 000 personnes qui sont en attente de greffe. 20 000 personnes, c'est pas rien. Alors que en 2014, donc l'année dernière, il y a eu seulement 5 337 greffés. C'est vous dire le gap qu'il y a entre les deux. Il y a eu 3200 greffes de rénales, 1200 de hépatiques et puis 400 cardiaques et quelques autres en pancréas, etc. Mais c'est vous dire quand même l'importance qu'il y a dans l'information effectivement du don d'organes. Je pense que beaucoup de personnes se disent « bah ça c'est pour les autres, c'est pas pour moi ». Mais en réalité, la greffe, ça concerne tout un chacun. La preuve, nous, en ce qui nous concerne, on n'était pas du tout préparés à cette question. Fort heureusement, comme je le disais tout à l'heure, notre fils était très généreux, et donc on ne s'est pas trop posé la question, ma femme et moi, et puis ses frères et sœurs. Et rapidement, évidemment, on a dit oui. Mais quand on regarde bien, tout un chacun, peu de personnes sont préparées à ce problème. Et ça peut concerner n'importe qui, car la greffe n'est pas uniquement réservée à des jeunes qui meurent. La greffe, c'est aussi la greffe du vivant, d'un frère, par exemple, à sa sœur, d'un rein. C'est aussi la greffe qui peut, effectivement, d'une personne décédée. Mais bref, il y a beaucoup de cas et peu de personnes sont vraiment informées. Le film documentaire de demain soir à ce sujet est remarquable.
Louis Mathieu, vous l'avez vu, vous, ce film ?
Non, mais c'est vrai que ça me donne envie de le voir et c'est un sujet qui me paraît extrêmement important et très intéressant. Je pense à un cinéaste pour qui c'est une question centrale, c'est Almodovar, qui montre beaucoup cette question-là dans ses films, parce que c'est accepter l'autre en soi-même. Et c'est aussi donner soi-même à l'autre. Et là, il y a quelque chose mais qui touche très profondément à notre vie, et puisque c'est une question de corps, hein, de morceaux de nos corps que là, nous échangeons. Et c'est vrai qu'il y a des barrières par rapport à ça, et que quand ces barrières tombent, c'est magnifique.
Il n'est pas toujours facile de donner, mais il est encore souvent plus difficile de recevoir, en fait.
Thibault ?
Oui, Hubert Humeau, est-ce que vous pourriez revenir sur ce qui a animé la création de l'association Les Amis de Pierre pour Saragouro, dont vous êtes le représentant ?
Oui, alors en fait, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, à la suite de l'accident mortel donc, de notre fils, l'un de ses amis, notre fils en fait était parti en Équateur, donc à Saragouro. Saragouro, c'est un village de la cordillère des Andes à 2400 mètres d'altitude, qui est à majorité indigène. Il faut savoir que ce village, en fait, est composé de deux cultures très différentes. La culture métisse, disons d'origine espagnole, on va dire, et puis la culture indigène. Pierre était parti là-bas pour créer une coopérative agricole par le biais d'une ONG espagnole qui l'avait envoyé là-bas. Et il s'était beaucoup intéressé aux jeunes. Parce que là-bas, les jeunes ont un problème fondamental qui est que, premièrement, ils n'ont pas d'activité l'après-midi. Toutes les écoles, quel que soit le niveau, ferment à 13h. Et qui plus est, c'est un village de montagne, donc assez isolé. Par conséquent, l'après-midi, les jeunes sont attirés par les sirènes de l'alcool, les sirènes de la drogue. Là, il y a des maternités juvéniles, etc. Et puis, surtout, ce problème dont je vous parlais tout à l'heure, qui est ce problème multiculturel qui fait que, dans la réalité des choses, nous sommes allés là-bas plusieurs fois, les métis et les indigènes ne se mélangent pas. Il y a encore quelques années, là-bas, c'était un peu l'apartheid. Hein. Quand vous rentriez dans un bus, vous, Français, ou Anglais, ou Américain, l'indigène devait vous laisser sa place. Et ce n'est qu'en 2008, c'est donc tout récent, que le pays a adopté une constitution qui donne l'égalité des droits entre les deux cultures. C'est vous dire s'il y a encore des problèmes, parce qu'évidemment, ça a beau être maintenant inscrit dans la loi, il n'empêche qu'il va falloir attendre des décennies pour que les mentalités évoluent en réalité.
Et alors, quel genre d'action mène votre association sur le terrain là-bas ?
Alors voilà, sur le terrain là-bas, donc il a été créé avec les habitants du village une fondation qui s'appelle la fondation Machi Pierre. Pourquoi Machi ? Parce qu'en quechua, ça veut dire « très cher ami ». Et cette fondation a donc créé une maison des jeunes. Et dans cette maison des jeunes, nous proposons un certain nombre d'activités qui sont des activités culturelles, qui sont des activités sportives. Notamment, par exemple, on fait danser ensemble des jeunes qui, par définition, ne dansent pas ensemble, ne se parlent pas dans la rue, qui sont indigènes et métis.
Antoine, tu avais une question également.
En effet, je voulais revenir un petit peu sur le don d'organes en lui-même. Vous qui connaissez un petit peu l'affaire de par votre position, est-ce que vous avez une analyse pourquoi ça marche aussi peu ? Est-ce que c'est parce que c'est encore tabou ? Est-ce que c'est parce que c'est flou ? Est-ce que c'est parce que c'est juste un problème de communication ?
Je pense qu'il y a les deux. Il y a à la fois un problème de communication, parce qu'effectivement, il y a peu d'informations sur la question. D'ailleurs, il y a eu donc des manifestations la fin septembre en France pour que, justement, on ait le regard tourné sur ces différences et ce problème d'information auprès de la population. Mais je crois aussi que si, effectivement, il n'y a pas de... on a encore cette réticence. Je crois qu'il y a un tabou, c'est vrai. Mais je crois surtout qu'avec plus d'informations, rapidement, le français aujourd'hui est quand même assez ouvert à la question. Et moi, je crois qu'il peut y avoir de réelles avancées sur la question.
Thibault ?
Alors, je retourne en Équateur. Ça va faire 3 ans que votre association agit sur place. Est-ce que vous avez constaté des évolutions depuis ces 3 ans ? Est-ce que vous êtes satisfait ?
Alors, les évolutions, elles sont certaines. La première évolution importante, c'est que c'est un ami de notre fils qui était sur place et qui était déjà en coopération là-bas, qui a accepté de donner 1 an de sa vie pour lancer le projet. Et je l'en remercie. Il s'appelle Javier, c'est un Espagnol. Et il a lancé le projet au départ sans structure. Il a lancé le projet et au bout de 8 mois nous sommes allés là-bas représenter donc l'association que nous avions créée en France pour aller voir si véritablement ce projet s'inscrivait dans une volonté des habitants du village. Parce que sinon, ce n'était pas la peine de nous imposer et de faire une micro-réalisation qui n'était pas attendue. Par conséquent, c'est ce que nous avons fait lors de cette première visite en 2013. Nous avons, avec les habitants du village, nous avons convenu que c'était indispensable de créer une association ou une fondation qui permettait de porter le projet sur place, de le représenter, d'embaucher, de louer un local, etc. Et donc c'est ce qui a été fait en 2013. Ils ont créé donc la fondation Machi Pierre que nous soutenons maintenant avec l'association française. Et nous y sommes retournés donc là-bas sur place cette année au mois de juin. Et là, on les a aidés également à comprendre aussi le fonctionnement associatif. Parce que là-bas, il faut savoir que le fonctionnement associatif n'est pas aussi simple qu'en France, si j'ose dire. Le fonctionnement associatif en France est extrêmement développé. Là-bas, ce n'est pas le cas. Et en plus de ça, il y a de nombreux freins gouvernementaux.
Hubert Humeau, on rappelle que vous êtes le président de l'association Les Amis de Pierre pour Saraguro. Je voulais savoir quelles sont les relations que vous entretenez avec d'une part les associations, les autres associations locales en Équateur, et d'autre part avec les autorités locales?
Alors, on a d'excellentes relations avec les autres associations locales et notamment toutes les associations qui ont des projets franco-équatoriens, puisqu'on est français. On est notamment en lien avec un partenaire qui nous envoie régulièrement des volontaires français, qui s'appelle Une Option Mass, et qui est implanté en Équateur pour aider justement, c'est une sorte de plateforme qui aide les projets franco-équatoriens en aide humanitaire. Et puis, avec les autorités locales, alors nous sommes reconnus par le ministère de la Jeunesse. Et récemment, nous avons été financés pour élargir le projet en une bibliothèque ludothèque par l'intermédiaire d'une subvention que nous avons reçue du service social de l'ambassade de France.
Alors, vous évoquiez tout à l'heure les évolutions législatives depuis 2008. La situation globale en Équateur s'est améliorée depuis ?
Alors, il y a deux choses à vous répondre. La première, c'est oui, ça s'est amélioré parce qu'effectivement, le président Correa actuellement a fait énormément pour développer le réseau de transport, c'est-à-dire les routes, par exemple, le réseau scolaire et donc les écoles. Il a officialisé, si j'ose dire, la rémunération, par exemple, des maîtres. C'était pas rien. Le réseau santé. Donc, il a fait énormément à tous ces points de vue-là. Par contre, en ce moment, l'Équateur vit un gros problème puisque le pétrole chute de façon considérable. Et donc, en l'espace d'un an, l'Équateur a perdu 30% de son PIB. Ce qui fait perdre un peu les pédales, à mon avis, au président actuel. Et il prend des décisions drastiques qui sont parfois dramatiques, comme par exemple, que je peux vous citer par rapport aux indigènes, de vendre certaines terres qui appartiennent, sur lesquelles étaient des indigènes, certaines terres aux Chinois pour exploiter des mines.
Alors justement, le président Correa est finalement relativement peu connu en Europe, même si quelques figures de la gauche européenne, notamment Pablo Iglesias, en parlent souvent. Justement, comment il est vu aujourd'hui par son peuple après, on va dire, avoir redressé le pays, puis avec, comme vous le disiez, la chute du cours du pétrole, on sait que c'est compliqué.
Je pense qu'il a été élu en partie grâce aussi aux indigènes qui, justement, avait compris qu'en lui, il y avait une ouverture possible. D'ailleurs, dans son équipe ministérielle, il y a un indigène. Mais malheureusement, actuellement, les décisions qu'il prend font que les gens commencent à comprendre que les indigènes notamment, en tout cas aujourd'hui, ne sont plus du tout pour lui et manifestent dans les rues. Moi, je suis allé au mois de juin, je vous le disais tout à l'heure, à Loja, une ville du sud du pays, une grande ville de l'Équateur. J'ai vu des manifestations très virulentes contre le président actuel.
Alors, pour rester en Équateur, on va faire une petite pause musicale. On va écouter Nicolas Cruz qui est en featuring avec Waria. C'est la chanson Equinoxio. On revient juste après. On va vous libérer, Louis Mathieu. Vous avez quelque chose d'urgent à faire aux 400 coups. Merci d'avoir été avec nous, Hubert Humeau. On vous garde par contre et on se retrouve juste après Equinoxio.
Veo venir mi pluma salada y en Maya que me cuida la espalda es serpiente de ala emplumada. Como hiedra voy trepando tus paredes, todo esclarece desde aquí adentro, todo esclarece desde aquí adentro. crecen mis mareas. Son los ríos de sangre mestiza. Y el jaguar que llevamos en la mente corre fuerte por mis entrañas. Con el llague voy nadando por tu sangre. Como el llague voy serpenteando.
Toujours à l'écoute du 103 de Radio Campus Angers. Et tout de suite, ça va être l'heure de passer au cabinet des curiosités d'Antoine.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Alors Antoine, ce soir, tu vas tenter de faire le rapprochement entre deux choses a priori pas évidentes du tout, la politique et le fromage.
Effectivement. Donc bonsoir à tous, bonsoir. Ah. Je change de micro, très bien. Ah, c'est mieux là. Donc, on recommence du début.
Allez, recommençons. Allez. Ce soir, Antoine, tu vas nous parler politique et fromage.
Fromage, et ouais, et ça pue. Donc, y a les élections départementales qui vont arriver d'ici peu sur notre belle région, comme dans les dizaines d'autres. Comme vous le savez, on est actuellement sous mandataire socialiste depuis 2004. C'est donc sous le regard bien pesant des éléphants parisiens qu'elle va se dérouler, alors qu'aux dernières élections départementales, 4 départements sur 5 sont passés sous bannière. Sarko, Juppé, Fillon, Morano, on ne sait plus trop, rayez la mention inutile. Donc seule la Loire-Atlantique est socialiste. Alors comment vous dire ? Oui, mais ça va chier des bulles. Ça va chier des bulles carrées en décembre prochain, parce qu'il y a pas moins de 9 listes candidates en Pays de la Loire, dont seules 2 sont conduites par des femmes. Autant vous dire que c'est pas un signe particulier de capitalisation, le sexe féminin par chez nous. Mais passons. Vous saviez d'ailleurs, Thibault, Pierre-Louis, monsieur, qu'il y a même des instituts de sondage qui s'intéressent à la région. Si, c'est possible.
Incroyable. Incroyable, mais vrai.
Comme quoi, tout n'est pas perdu. Notamment, l'Institut BVA, qui le 23 octobre dernier, a annoncé que la liste des Républicains UDI conduite par Bruno Retailleau arriverait en tête avec 36% des suffrages exprimés au premier tour. Le Vendéen, qui est a priori le seul qui n'a pas encore rejoint le parti de Philippe de Villiers,
oh, c'est méchant, ça.
Devancerait ainsi de 13 points la liste PSPRG de Christophe Clergeau, soit 23%. Le Front National, conduit par Pascal Gana, il faut quand même en parler malheureusement, quant à lui, il ferait 16% des suffrages. Et pour l'anecdote, attention, c'est le record, Lutte Ouvrière parviendrait à 1%.
Bravo, on les félicite.
Mais ce qui au final, c'est pas ridicule, vu le nombre d'électeurs qui ne connaissent même pas le parti, 1%, c'est quand même déjà beaucoup. Et une semaine après le premier tour, l'idée de base reste à peu près la même, avec une large victoire de Bruno Retailleau, 45%, devant Christophe Clergeau à 37%. Le Front National, quant à lui, resterait au deuxième tour, malheureusement. Arriverait donc, quant à lui, en troisième position, dans le cas d'une triangulaire, avec à peu près 18% des voix exprimées par les électeurs.
Bon, alors ça y est, tu nous as parlé politique, tu passes au fromage. Quel est ton lien, mis à part que les deux puent, comme tu nous l'as dit, hors antenne?
On n'a pas fait meilleure blague depuis la médiatisation de Nadine Morano que l'odeur entre le fromage et la politique, je m'en excuse.
Ouh, ça balance.
Et pourtant, des chercheurs états-uniens, et non pas américains, ont démontré que taper dans le claco, c'était tout aussi addictif que taper une trace au KLM, t'as vu ma gueule, bien ou quoi, au boulot. Alors, allez croire, l'addiction au fromage est comparable aux drogues, au tabac et à l'alcool. Sauf qu'on ne peut pas parler d'addiction au fromage et encore moins les assimiler aux effets sur le cerveau, à ceux des opioïdes, indique à la revue Science et Avenir Bertrand Nalpas, directeur de recherche à l'INSERM. Donc, selon ce dernier, attention, les aliments ne provoquent pas, sauf qu'exceptionnel, cet effet de manque et de perte de contrôle sur soi. Il ajoute aussi, c'est un mode d'utilisation inadapté de substances qui conduit à une altération du fonctionnement ou à une souffrance cliniquement significative selon la définition donnée par le DSM-5, le manuel de l'Association américaine de psychiatrie. Vous n'avez rien capté, je vous rassure, moi non plus. Et c'est pas faute d'avoir mangé un panini jambon et mental ce midi à la cafette, mais sachez juste que manger des choses que l'on apprécie et consommer de la drogue excite le cerveau, mais pas de la même façon. Le chocolat, par exemple, active de la bonne dopamine, vous êtes content. La drogue, elle active la mauvaise dopamine. Vous êtes content, mais vous n'êtes pas lucide. C'est ballot. C'est QFD. Enfin, toujours est-il que manger une bonne part de camembert n'est pas si mauvais que ça pour la santé, même s'il ne faut pas en abuser. Hein, quand même, les enfants, calmez-vous. Contrairement à la drogue, calmez-vous aussi pour ça. Pour rappel, la revue susnommée nous rappelle des choses qui nous rendent le plus addicts. Attention, c'est du lourd. Tabac 32%, héroïne 23%, cocaïne 17%, alcool 15%, stimulant comme les amphètes 11, la weed, le cannabis, 9, 9 également pour les psychotropes, 5 pour les substances hallucinogènes telles que les champignons et, faudra m'expliquer, 4% pour le poppers, les cols et les solvants. Qui sniffe encore de la superglue en 2015, je ne sais pas, et sur quel bilan sont faits ces pourcentages, on ne sait pas non plus, je préférerais vous le dire. Et mon cher Pierre-Louis, le fromage n'est même pas dedans.
Oh, crime.
Et si c'est l'INSERM qui le dit, alors ça va. Toujours est-il que la consommation de drogue est interdite par la loi et qu'il faut boire avec modération, patati patata, on embrasse le CSA, tralali, tralala. Et c'est tout pour moi ce soir, et je voulais quand même vous le rappeler que ça fait 2 ans que nos confrères de RFI, Claude Verlon et Ghislaine Dupont, ont été enlevés et assassinés par Hakimi dans le nord du Mali. Et c'est aujourd'hui aussi que la journée pour la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes créés en leur mémoire. C'est juste un petit mot pour rappeler leur mémoire. Bonne soirée, bonne semaine.
Merci beaucoup, Antoine. Hubert Humeau, quelque chose vous fait réagir la politique, le fromage?
Comme lui, j'ai rien compris.
Mais à ça ou à l'ensemble de la chronique? Parce qu'il faut le dire. Que je ne me suis pas compris non plus, je vous rassure.
Bon, tout de suite, comme chaque soir, vous avez le droit à une petite bulle sonore. Aujourd'hui, c'est l'émission Bamboo Station qui est à l'honneur.
Yes, c'était Carlton and the Shoes, le morceau c'était Love of Jah Children, c'est un vinyle qu'ils ont sorti en 1973 et on va enchaîner avec tout de suite un deuxième morceau que j'adore énormément. Le groupe s'appelle Carlton and the Shoes, le morceau c'est Better Days. Alors pour la petite histoire, Carlton and the Shoes, c'est un groupe qui a connu le succès dans les années 70, ils ont sorti 3 albums, un en 78, un en 82 et un en 96, donc tout de suite Carlton and the Shoes. Better days. Yes! Oh,
et vous pouvez retrouver Joe et son ambiance reggae chaque lundi de 23h à minuit. Et c'est déjà l'heure de se quitter. On remercie chaleureusement Louis Mathieu d'être passé et vous, Hubert Humeau, d'être resté tant qu'à faire jusqu'au bout de l'émission.
Merci Pilar-Louis.
Il faut également remercier Thibaut et Antoine de leur participation ce soir. Merci à vous deux.
Mais merci à toi, Pierre-Louis. Bonsoir.
Et puis, bien sûr, on remercie Quentin qui était à la réalisation de ce premier sous-marin de la saison. On se retrouve demain, même heure, même fréquence, pour un nouveau sous-marin. À ciao, bonsoir.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.